Rayon d'action. APF France Handicap 49 fait bouger les lignes. Tous les quatrièmes jeudis du mois, 19h, 20h, sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Angers, 103 FM. Vous écoutez Rayon d'action, une émission proposée par la délégation APF France Handicap du Maine-et-Loire. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale, Hors les murs, le handicap avec des mots d'enfant. Pour cela, ce sont quelques élèves de 6e du collège Saint-Lô au Pont-de-Cé que nous recevons. Merci à eux et merci à l'équipe enseignante pour leur accueil. Au programme de cette soirée,
une émission réinventée afin de nous permettre d'échanger avec les élèves présents à nos côtés. Dans un premier temps, nous proposerons aux élèves de piocher quelques questions surprises afin de rendre les discussions plus ludiques, mais surtout d'entendre leurs mots. Puis, nous laisserons les enfants nous poser leurs questions. Merci à Jade, notre service civique, pour sa présence à mes côtés et son aide précieuse. Et Étienne, de Radio Campus, sans qui cette émission ne serait pas possible. Au fil de l'émission, vous pourrez entendre différentes pauses musicales. Moonlighting de Maro Maro, La Différence de Santa, Golden de K-pop Demon Hunter, Merchant meets The Wise Wolf dans sa version instrumentale. Chacune de ces musiques ont été choisies par les enfants. Merci à eux.
Action en podcast sur toutes les plateformes et sur radiocampusangers.com.
Je vais vous demander à chacun d'entre vous de prendre le micro à tour de rôle et de me donner vos prénoms.
Bonjour, moi je m'appelle Ewan.
Bonjour, moi c'est Warren.
Bonjour, moi c'est Younes.
Bonjour, moi c'est Victor.
Bonjour, moi c'est Mathieu.
Bonjour, moi c'est Jules.
Bonjour, moi c'est Charlie.
Bonjour, moi c'est Adam.
Bonjour, moi c'est Nino.
Bonjour, moi c'est Alix.
Bonjour, moi c'est Lou.
Bonjour, moi c'est Valentine.
Bonjour, moi c'est Emily.
Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui saurait m'expliquer quel est votre projet radio quand vous faites des ateliers?
Le but c'était qu'on sache parler à la radio et ce les personnes font à la radio.
Je vais vous proposer de répondre à quelques questions. Alors, on a prévu un petit pochon qu'on va vous faire passer après. Mais avant, j'ai quelques petites questions pour vous. J'avais envie de savoir, selon vous, qu'est-ce que c'est le handicap?
Le handicap, c'est un truc, genre, c'est comme des, genre, c'est des humains, mais qu'on a un petit truc en plus, quoi. Dans...
Pour moi, le handicap, c'est des personnes qui ont des problèmes soit au cerveau, soit qui sont en fauteuil roulant ou quoi.
Par exemple, c'est des personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres. Ou, par exemple, une déficience intellectuelle.
En soi, c'est un mode de vie différent qu'il faut accepter.
C'est soit un truc physique, soit un truc mental, soit, je sais pas moi, comment dire.
Ça peut être différents types d'handicap.
Est-ce que tu sais me dire quels sont les différents types de handicap?
Il y a les types d'handicap au cerveau, où ça se voit pas, mais c'est dur, aux oreilles.
C'est les types d'handicap qu'on ne voit pas et qu'on voit.
Il y a le handicap physique et le handicap mental.
Il y a des formes de handicap où on a besoin de choses pour régler notre handicap et d'autres où on n'a pas besoin.
Je sais pas si ça existe, le handicap psychologique.
Oui, on dit psychique pour te corriger et avoir le bon terme.
Il y a aussi l'hyperactivité.
Alors, je vous donne la définition du mot handicap. C'est une limitation ou une restriction, une impossibilité de faire une activité de la façon conventionnelle ou normale. C'est-à-dire qu'on fait les choses différemment en fonction de nos capacités physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques. Si on a un handicap multiple ou pas forcément. Que ce soit un handicap visible, invisible. On peut dire que le handicap, c'est l'interaction entre une personne et son environnement. Et c'est souvent l'environnement qui crée le handicap. Et la notion de handicap évolue avec la société et elle est différente d'une personne à une autre. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'une personne est moins intelligente ou moins forte que quelqu'un qui n'a pas de handicap. C'est-à-dire que, comme tu l'as si bien dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais le handicap, on dit souvent que c'est un petit truc en plus. Et donc le handicap, il y a plusieurs catégories de handicap. Il y a le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap auditif, le handicap visuel. Et vous avez toutes les maladies invalidantes. Donc toutes les maladies, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la sclérose en plaques par exemple. Vous en avez plein. Vous avez la dyslexie, la dysorthographie, ça vous parle peut-être un petit peu, les troubles 10. Voilà, et ça fait partie des handicaps invisible. Est-ce que dans le collège, vous avez des personnes en situation de handicap, du coup?
Si, il y en a un en troisième, il est dans la classe de mon frère, je crois qu'il s'appelle Julien.
Il y a une fille que je connais dans ma classe qui a des troubles, enfin qui a des... un problème aux oreilles.
Et dans ma classe, je crois, il y a une... je suis pas sûre des... je sais qu'il est 10 quelque chose, mais Léni. Léni, il est... de ce qu'on me souffle à l'oreille, il est dyslexique et dysorthographique, je crois.
Maintenant, on va vous faire passer le petit pochon qui est là devant. Dedans, vous avez des petits papiers. Vous piochez un petit papier, vous lisez la question et vous essayez d'y répondre avec vos mots. Si vous n'y arrivez pas, je réponds. Ok ?
Une personne en situation de handicap doit-elle parfois prendre des traitements ? Ça dépend des cas. Oui, des fois. Si par exemple, le handicap, c'est un handicap qui peut faire mal, des fois, genre... si on a un truc au bras, par exemple, et que la douleur au bras, bah, elle fait mal. Et bah, on doit prendre des trucs qui font des médicaments pour faire moins mal, je sais pas.
Bah, moi, je connais quelqu'un qui a des troubles au cerveau et cette personne, elle prend des médicaments.
Aussi, il y a mon frère. Il a des troubles du comportement. Genre, il a du mal à se concentrer en cours et du coup, il prend un petit peu des médicaments le matin pour l'aider à se concentrer. Mais voilà.
À quoi sert un fauteuil roulant ? Un fauteuil roulant, ça sert souvent à mettre déjà des personnes dedans qui ont du mal à marcher ou qui peuvent pas marcher ou qui ont ou pas des jambes. Ça sert à les déplacer parce que sinon, ils pourraient pas se déplacer tout seuls. Et ça peut être soit quelqu'un qui les pousse, soit eux qui avancent en faisant tourner les roues avec leurs mains, ou des fois des fauteuils roulants électriques.
Bah, ça sert aux personnes qui ont des problèmes, qui sont paralysées, ça sert à rouler. Voilà.
Ça sert surtout à des personnes qui ne sont pas aptes à utiliser des parties de leur corps. Le problème des fauteuils roulants, c'est que ça coûte hyper cher.
Ah ah ! On va parler un peu près, du coup, tu me lances là-dessus. Selon vous, je rajoute une question qui n'est pas dans la pioche. Combien ça coûte un fauteuil roulant ?
Moi, je pense que ça coûte dans les 500 euros.
90 000 euros pour un électrique.
Heureusement qu'il y a le crochet.
1300 vers 1500 ?
2000 ?
5000 ?
Mais ça dépend s'ils sont électriques ou normales.
Entre 5000 et 6000 ?
Entre 4000 et 7000.
Alors que je vous explique. Pour le prix d'un fauteuil roulant, ça dépend de plein de choses. Est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il est lourd ? Voilà, parce qu'un fauteuil peut faire de 2 kg jusqu'à une quinzaine de kilos pour les fauteuils manuels. Donc celui sur lequel tu étais assis tout à l'heure, c'est un fauteuil dit manuel. Donc tu travailles avec tes bras. Moi, mon fauteuil sur lequel je suis assise, c'est un fauteuil électrique. Donc, tu as deux tranches de prix, pour les fauteuils manuels et pour les fauteuils électriques. Un fauteuil manuel peut aller de 500 euros pour le fauteuil que vous trouvez dans les pharmacies, jusqu'à à peu près 15 000 euros, en fonction des options que vous avez sur le fauteuil, en fonction de la matière, si c'est très léger, si c'est un peu plus lourd. Si vous avez des roues tout terrain, des roues avec des freins dans les mains courantes, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est une première fourchette. Et pour les fauteuils électriques, vous partez en moyenne de 5000 euros et ça peut aller effectivement jusqu'à presque 100 000 euros. En fonction des adaptations que tu as dessus, donc des options, s'il est juste électrique, s'il te permet, comme le mien est un fauteuil qui s'appelle un fauteuil multiposition, qui me permet d'être d'à la fois être assise, je peux m'allonger, je peux me mettre debout, je peux monter en hauteur en étant assise, ce qui me permet d'aller tout en haut d'une étagère. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc le prix est fixé en fonction des options. Et donc maintenant, depuis le mois de décembre, vous avez une nouvelle loi qui est passée qui permet d'avoir des meilleures prises en charge. Donc ça coûte moins cher à la personne.
Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelque chose... La Sécu, je crois.
Oui.
La Sécurité sociale, qui nous aide pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou si ça coûte vraiment beaucoup cher, trop cher.
Donc c'est ce que je te disais, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, qui fait que maintenant la Sécu prend beaucoup plus en charge les fauteuils roulants, qu'ils soient manuels ou électriques. Avant, c'était pas comme ça. Avant le mois de décembre, c'était pas comme ça. T'avais un petit bout qui était pris en charge par la Sécu, et après c'était la mutuelle. Ou la maison de l'autonomie, ou des fonds de compensation à côté. Et des fois, c'était la personne qui donnait son argent pour pouvoir avoir un fauteuil roulant qui va lui permettre d'être autonome, c'est-à-dire de vivre comme vous, de faire sa vie tout seul, grâce à ce moyen technique.
L'objectif d'un fauteuil, c'est d'être autonome, surtout.
Ouais, c'est ça. Et donc, ça peut être utilisé par des personnes qui, effectivement, ont des paraplégies, ont des maladies, mais aussi, des fois, ton fauteuil, tu n'en as pas besoin toute la journée. Tu vas marcher et puis, à un moment donné, tu vas être trop fatigué, donc tu vas avoir besoin de ton fauteuil.
Pourquoi améliore-t-on les équipements dans les villes ?
Pour les handicapés, justement, pour ceux qui sont en fauteuil roulant ou quoi, parce que, par exemple, devant le collège, c'est un petit peu compliqué d'accéder tout seul en fauteuil roulant parce que les trottoirs, ils sont petits
pour les fauteuils roulants. Et par exemple, au collège, on a un ascenseur. C'est fait exprès pour les personnes qui ont besoin d'aide ou qui sont handicapées.
Par exemple, il faut des ascenseurs. Et, par exemple, la loi il dit que dans les collèges, dans les collèges et dans les écoles, par exemple, il faut des rampes, par exemple, pour les fauteuils roulants, pour qu'ils rentrent, par exemple, dans l'établissement.
Pour les aider à se déplacer.
Pour que ce soit accessible à tout le monde, dont les personnes qui sont handicap, en béquille ou autre.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez tous très bien répondu déjà, ça c'est chouette. L'accessibilité dans la rue, donc tout ce qui est adapté au fur et à mesure dans les années, ça sert effectivement pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. C'est-à-dire que dans vos familles, vous avez peut-être des petits frères, des petites sœurs, vous avez des grands-parents. Ça peut leur servir quand vous vous baladez avec une poussette, avec un déambulateur, des choses comme ça.
Avec un vélo pour éviter de descendre par les escaliers et de se casser la figure.
C'est ça. Les rampes peuvent servir à tout le monde, pas que à des personnes en fauteuil. Une personne qui a une poussette, un déambulateur, une personne qui est déficiente visuelle, c'est peut-être moins dangereux de prendre la rampe que de prendre les escaliers.
Moi, je sais que ma mère, elle travaille... elle garde des enfants et du coup, au début, elle râlait quand elle a commencé à travailler. Elle a râlé. Quand elle est promenée, il n'y avait pas assez de place pour promener en poussette.
Mais c'est vrai que quand les trottoirs ne sont pas assez larges, ça peut être difficile pour tout le monde. Mais tu disais quelque chose de très bien, c'est que les rampes peuvent servir également pour les enfants. Les enfants en bas âge qui apprennent à marcher, c'est plus facile de leur dire « viens, on prend la rampe » que de prendre l'escalier. En général, quand même, c'est beaucoup plus facile. Et donc nous, ce qu'on aime bien dire dans l'association, c'est que s'il y avait des rampes partout et qu'il y avait plus d'escaliers, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde puisque tout le monde peut passer par la rampe. Alors qu'en fauteuil, si t'as que des escaliers, tu vas être bien embêté. Ou si t'as des difficultés à marcher et à monter un escalier, tu vas être bien embêté également. Et en général, tu fais pas la chose.
À quoi servent les sous-titres sur une vidéo, à la télévision ou au cinéma ?
Pour aider les personnes qui ne peuvent pas entendre.
C'est pour ceux qui sont, comme Nino l'a dit, pour ceux qui sont malentendants. Et comme ça, ils peuvent lire c'est pour les... Il y a des fois aussi, c'est pas que sous-titré, il y a aussi la langue des signes aussi, des fois.
Oui.
Quand le président, il parle des fois, des gens.
Et aussi pour, quand par exemple il y a des personnes qui vont au cinéma, au moins c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut comprendre ce qui se passe, même s'il n'y a pas l'intonation.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intonation, comme tu le dis, quand tu as des sous-titres qui sont adaptés aux personnes déficientes auditives, ils ont les intonations. Est-ce que tu sais comment ?
Avec la ponctuation ?
Ça peut être la ponctuation, mais c'est surtout que les sous-titres, alors principalement ils sont blancs, quand il y a un changement de sonorité, ils changent de couleur, le sous-titre. Tu peux avoir d'un seul coup un sous-titre violet, ou quand tu as un changement de plan, le sous-titre il peut passer orange, etc., etc. En fait, ils jouent avec les couleurs pour que la personne qui est déficiente auditive comprenne qu'il y a plusieurs scènes, parfois plusieurs personnages. Grâce aux couleurs, ils arrivent à se repérer. Alors, je ne saurais pas te dire le code couleur exact. T'as un truc qui est très spécifique, mais qui permet vraiment à des personnes déficientes auditives de se rendre compte de ce qui se passe. Et, alors, on n'en a pas parlé dans les questions, mais vous avez des adaptations au cinéma, à la télévision, pour les personnes déficientes visuelles également. C'est-à-dire que ça va faire une description de toute la scène et de tout ce qui se passe. Et ça va permettre aux personnes de comprendre ce qui se passe.
Et aussi, il y a des personnes qui peuvent lire par la bouche.
La lecture labiale.
Moi, ma mamie, quand elle regarde la télé, elle met les sous-titres parce qu'elle est malentendante.
Ce que vous avez dit juste avant, ça s'appelle pas l'audiodescription ?
Tout à fait. C'est une autre façon d'adapter la télévision ou le cinéma ou tout ce que tu veux. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et vous écoutez Rayon d'Action, une émission proposée par la délégation APF France Handicap du Maine-et-Loire. On continue les questions.
Est-ce que tu te sens différente des autres enfants de ton âge ? Pourquoi ?
Je me sens pas forcément différente, mais on est tous différents des uns des autres.
On est tous différents, mais on doit l'accepter.
Moi, je pense que la différence entre chacun de nous, c'est ce qui, en fait, nous unit le plus. Parce que si on se ressemblait tous, le monde serait vraiment pas pareil.
Moi, je pense que chacun a son potentiel et qu'il faut l'exploiter.
Les différences sont toutes belles les unes les autres. Et que chaque être humain est différent. Qu'il ait un handicap ou non, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'être unique à sa façon.
Les personnes en situation de handicap peuvent-elles avoir des amis ou être amoureuses ?
Oui. Moi, je dis, peu importe le handicap, tout le monde peut faire ce qu'il veut dans la vie.
Dans un petit truc en plus, il y a des personnes qui sont amoureuses.
Aussi, oui. Parce que justement, j'ai lu un truc comme quoi les personnes cherchaient la ressemblance. Donc, un handicapé peut aussi être amoureux d'un handicapé. Et voilà.
Oui, car il n'y a pas de problème tant que l'amour ou l'amitié est là.
Moi, j'ai vu un film qui a touché, je pense, beaucoup de personnes, qui s'appelle Intouchable, avec l'acteur Omar Sy, qui va aider une personne en situation de handicap qui est dans un fauteuil roulant, qui parle par lettre avec une demoiselle. Et il va jamais avoir le courage d'aller lui parler en vrai. Et c'est Omar Sy qui va justement le forcer et lui faire un rendez-vous. Et au final, ils vont finir par s'aimer.
Alors, malheureusement, on sait dans la société que beaucoup de personnes en situation de handicap sont isolées. Parce que souvent, la différence fait peur. C'est très dommage. Et une personne en situation de handicap, tu l'as très bien dit, peut être amoureuse d'une autre personne en situation de handicap, peut être amie avec une autre personne en situation de handicap, mais pas forcément.
Aussi, il y avait, on est allé voir Julien, du coup, et on l'a discuté un peu avec lui. Et après, il nous avait dit qu'il aimait bien être seul aussi. Enfin, il aime bien être entouré, mais il aime bien passer des moments seuls aussi.
Oui, mais une personne en situation de handicap, elle peut aimer passer des moments seuls, comme chacun d'entre vous peut aimer passer des moments seuls.
Moi, je suis un très bon ami à Julien, on s'entend très bien, on parle beaucoup ensemble. Et le premier jour où il est arrivé avec tous nos amis, on est tous allés le voir directement. Il était ravi de nous parler, il avait un énorme sourire et c'est toujours un plaisir de parler avec lui.
Bah oui, parce que tu le considères comme ton copain et pas comme il est handicapé. Et ça fait une différence énorme.
Mais aussi Julien, je trouve il est vachement populaire et je pense que c'est sa différence justement qui fait ça. Genre il est vachement aimé, je trouve. Voilà quoi.
C'est intéressant ce que tu dis.
Ouais. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, ouais, toi tu sonnes vrai. Je préfère t'en assez. Ouais. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste. Tu feras la différence. Quand le cœur de l'enfant. Photo fige, un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Tu feras la différence. Prends des vacances. très différent.
Handicap peut-être-il présent dans une famille? Moi, je pense que oui, parce que tout le monde peut être handicapé d'un jour à l'autre. Ça peut arriver n'importe comment.
Bah, par exemple, si un parent il a une maladie et peut-être que son fils il sera aussi ou sa fille. Il sera aussi touché de la maladie.
Moi, je connais quelqu'un dans ma famille. Quand il était petit, on se demandait ce qu'il avait parce qu'il était un petit peu bizarre au niveau mentalement. Et après, plus il a grandi, plus il s'est rendu compte qu'il avait une maladie qui l'impactait beaucoup, qui lui faisait du mal. Et des fois, il se demandait ce qu'il avait. Il se sentait seul. Il restait tout seul à chaque fois. Du coup, nous, on est venu l'aider et maintenant, voilà.
Oui, mais il n'y a pas de problème à cela.
Moi, j'ai quelqu'un qui est dyslexique dans ma famille et sa maîtresse l'avait pas vu. Et il a un peu subi des moqueries et tout ça à cause de ça. Parce que justement, on le croyait pas assez intelligent pour faire les exercices, alors qu'en fait... Justement, on ne l'a pas vu parce qu'il était très intelligent et qu'il compensait par son intelligence.
Un handicap peut être dans une famille, donc peut toucher une personne, et ça peut toucher aussi plusieurs personnes. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut arriver.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne en situation d'handicap ?
Espérer qu'il puisse vivre de sa maladie et qu'il continue à vivre comme il était avant.
Lui demander s'il a envie d'en parler, pourquoi est-ce qu'il est comme ça ?
Moi déjà, j'irais lui dire que son handicap, ça ne s'arrête pas au visuel ou au mental, parce que ça va justement l'aider dans sa vie et ça va être une force pour lui.
J'aimerais lui dire que son handicap, c'est sa force aussi.
Moi, je lui donnerais tout mon soutien pour qu'il apprenne à vivre seul.
Que tu restes toujours bien malgré ton handicap et que tu restes fort.
Je pense que je le traiterais comme une personne normale parce que dans tous les cas, il n'y a aucun changement. Parce que on est tous différents et en même temps, on est tous pareils. Mais malgré le fait que certains vont pas forcément s'entendre avec d'autres, faut toujours se considérer pareil.
Que faire si tu vois quelqu'un être rejeté à cause de son handicap ? J'essaye d'aller vers la personne handicap et d'essayer de lui remonter le moral.
On le défend et on va le dire à un adulte.
Moi, j'irai lui parler et je lui dirai de pas écouter la personne qui l'a justement snobé.
Je l'encouragerai pour essayer de continuer et de sortir ça de sa tête pour qu'il reparte à zéro comme si c'était rien passé.
Moi, je le défendrai, je le soutiendrai parce que notre différence, c'est notre force.
J'irai vers lui et lui donner de la force. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't.
waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up with our voices, going to get you so warming, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, born to be glowing. Like every night I know this. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et vous écoutez Rayon d'Action, une émission proposée par la délégation APF France Handicap du Maine-et-Loire. On passe à vos questions. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions?
Qu'est-ce que c'est le quotidien d'une personne en situation de handicap?
Alors, je vais te prendre mon exemple parce que je ne vais pas pouvoir parler pour les autres. Mais c'est le même quotidien que chacun d'entre vous. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais ma douche, je prends mon petit déjeuner, je me couche le soir. Et toute la journée, je fais ma vie. Alors, soit j'ai des rendez-vous médicaux, des soins, donc c'est-à-dire que je peux avoir une infirmière qui passe chez moi, je peux aller voir un kinésithérapeute qui va étirer mes jambes, me faire travailler mes bras, travailler les muscles pour avoir des bonnes épaules pour pouvoir me soulever quand je fais mes transferts. Je me fais à manger, je vois ma famille, des amis, mon amoureux, voilà, du monde. Je vais au travail, c'est-à-dire que je viens travailler à la délégation. Mais je travaille aussi, pour ma part, à mon compte. Donc, c'est-à-dire que je travaille de chez moi ou d'ailleurs, sur tout ce qui est la communication. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des affiches, plein de petites choses comme ça. Et voilà, et mon quotidien, je le fais comme n'importe qui. Juste toute la journée, il faut que j'utilise mes bras pour faire des transferts de mon fauteuil aux toilettes, puis des toilettes au fauteuil, du fauteuil à la douche, etc., etc., pour aller dans mon lit et me déplacer principalement en tramway et des fois avec mes proches, avec une voiture.
Est-ce que vous pourriez nous parler de pourquoi vous êtes en fauteuil roulant?
Oui, alors je peux t'expliquer pourquoi je suis en fauteuil roulant. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que moi, mon handicap, il n'est pas de naissance. C'est-à-dire que quand je suis née, j'étais pas en situation de handicap. J'étais comme vous, je marchais. Et puis j'avais 16 ans quand ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'un matin, j'aurais dû aller au lycée, un samedi matin. Et malheureusement, je me suis écroulée au sol chez moi. Je me suis levée quand mon réveil a sonné et boum, par terre. Pourquoi? Parce que j'ai fait un AVC. C'est-à-dire que j'ai un caillot de sang qui est passé au mauvais endroit au mauvais moment. Et qui a fait que mes fonctions motrices, donc la capacité à marcher, a été interrompu. Ça, j'aurais pu récupérer. C'est-à-dire que j'avais récupéré un petit peu de marche avec des béquilles. Pas tout le temps, des fois j'étais en fauteuil. Et puis, quelques mois après, j'ai eu malheureusement ce qui peut arriver à n'importe qui s'appelle un accident de voiture, qui a fait que ma moelle épinière a été touchée au niveau des lombaires. Et que, du coup, j'ai une paraplégie qui fait que mes jambes, elles fonctionnent plus normalement. Et donc, je peux plus marcher. Et en plus de ça, quand on a fait tous les examens de l'accident de voiture, on s'est rendu compte que j'avais une maladie neurologique un petit peu rare qui fait que mon corps s'attaque à lui-même, c'est-à-dire qu'il crée des cellules qui sont pas bonnes pour lui et qui fait que mes muscles fonctionnent pas comme il faut. Donc des fois, alors là aujourd'hui vous voyez le fauteuil, mes mains vont très bien aujourd'hui. Mais des fois il peut arriver que j'ai une attelle au niveau des mains. Parce que je me suis blessée au niveau du pouce. Principalement, c'est le pouce, en général. Pourquoi le pouce? Parce que je m'en sers pour... Mes mains, elles me servent pour tout dans la journée. Soulever une poêle, faire mes transferts du fauteuil.
Et des fois, le pouce, je le mets dans la mauvaise position, le muscle est un petit peu fatigué, et il arrive une catastrophe. Ça peut arriver, et il y a une autre chose que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un petit handicap auditif en ce moment, qui peut arriver à n'importe qui d'entre vous, puisque je fais des otites à répétition. Et donc, depuis le mois d'octobre, je n'entends plus rien de mon oreille gauche.
Comment fais-tu quand il n'y a pas de rampe ?
Eh bien, soit j'ai la possibilité de trouver un chemin de traverse, c'est-à-dire de faire un grand détour et de passer par un autre endroit pour accéder là où je veux. Soit j'appelle la personne à l'intérieur pour qu'elle vienne me donner le papier ou ce dont j'ai besoin. Soit j'y vais pas. Et puis je leur dis, vous me cassez les pieds parce que vous n'êtes pas adaptés. Parce qu'il faut quand même leur dire aux gens quand y a une marche. Alors des fois, c'est pas de leur faute. Hein. Quand c'est un bâtiment historique ou un lieu comme ça qui ne peut pas être adapté, bon, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que souvent, moi, quand il y a un problème de ce genre-là, soit je trouve un autre chemin, soit je demande à quelqu'un de le faire à ma place, soit, tant pis, on fait autrement.
Comment s'est créée l'association Handicap 49 ?
Nous, c'est l'association APF France Handicap. Du coup, c'est une association qui a été créée en 1933 par 4 personnes qui étaient en situation de handicap moteur avec une maladie invalidante. Et du coup, elles se sont dit, c'est dommage parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu de choses adaptées pour elles. Donc, elles se sont dit, mais en fait, il faut se mobiliser pour faire bouger les choses. Donc, elles ont créé l'association. Et aujourd'hui, donc, ça fait des années et des années que l'association évolue. Et elle peut accueillir toute personne en situation de handicap. C'est-à-dire que tu as des personnes en fauteuil, tu as des personnes qui sont malentendantes, tu as des personnes qui ont un handicap mental, tu as des personnes, tout type de handicap, mais on accueille aussi des personnes qui sont dites valides, donc qui n'ont pas de handicap, mais juste qui ont envie de faire du bénévolat, qui ont envie de participer à nos activités, à nos sorties. Voilà, on peut accueillir tout le monde.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans votre association ou pas ?
Alors, sur Angers, on est à peu près 250 bénévoles, presque à peu près autant d'adhérents, je crois. Et on est donc plusieurs salariés, donc autant en Maine-et-Loire qu'en Vendée. Au total, sur l'équipe Vendée-Maine-et-Loire, on est une dizaine de salariés, plus nos services civiques, parce que Jade, qui est à côté de moi, est en service civique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un service civique ?
Je suis pas sûre, mais c'est peut-être c'est un peu comme du bénévolat, mais c'est pour les gens. Enfin, on fait ça, je sais pas.
De aider les gens qui en ont besoin.
Alors, le service civique, c'est plus pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Ça va jusqu'à 30 ans pour les personnes qui sont en situation de handicap. En général, on est plutôt associé à des associations. Et notre but, c'est d'aider dans l'intérêt général. Donc, on a des missions très spécifiques. Souvent en lien avec des projets montés par des associations pour prêter main forte. On est à peu près entre 24 et 30 heures par semaine dans l'association, donc c'est quand même moins que des salariés. Et voilà, par exemple, moi je suis sur un projet de boutique solidaire, donc j'accompagne des bénévoles qui viennent faire du tri, par exemple. Autant des bénévoles complètement valides que en situation de handicap, physique ou pas.
Est-ce que vous vous êtes déjà fait moquer par quelqu'un dans la rue, par une personne ou autre ?
Alors moi, ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, le handicap, des fois, c'est tellement considéré comme une différence que on ne te considère pas comme tout le monde. Et donc, ça peut entraîner des moqueries, alors diverses et variées. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. J'étais au lycée et j'avais des camarades de classe qui avaient décidé que, maintenant que t'as un handicap, t'es plus la même. Marine, elle n'existe plus, en fait. C'est ton handicap qui compte. Alors que Marine, elle est toujours là et elle n'a pas changé. Et alors, ça m'est arrivé avec des élèves, effectivement, pendant mes études. Ça peut m'arriver dans la rue. C'est vrai que mon conjoint le dit souvent, c'est-à-dire que lui, il voit le regard que les gens peuvent porter. Alors des fois, c'est juste un regard d'interrogation, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds aux questions dans la rue quand quelqu'un me dit « pourquoi t'es en fauteuil roulant ?» Je réponds, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, t'en as des fois qui disent « qu'est-ce qu'elle est chiante cette handicapée-là parce que t'es au milieu du passage et que tu gênes la personne. » Ça peut arriver. Bon, moi, je fais le parti pris de ne pas répondre. Ou de répondre « j'ai le droit d'être là comme vous. Il y a un moment donné... » Tout le monde a le droit à sa place. Et c'est vrai que comme les remarques que tu pourrais avoir toi, en fait. Tu réponds pas. Ça n'a pas d'importance. Toi, ça change pas qui tu es.
Sa question, c'est comment fais-tu pour prendre des douches ?
Eh bah, ben, comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais dans ma douche, et en fait, j'ai une chaise qui est dans la douche, avec des ventouses en dessous, pour qu'elle ne glisse pas. Et après, bah, je prends le pommeau de douche et je fais ma douche. Mais tu as d'autres personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas le faire toutes seules. Donc elles ont une infirmière ou une aide à domicile, ou parfois leurs proches, qui sont là pour les accompagner et les laver. Tu vois, je vais te prendre mon exemple. Ma grand-mère était en situation de handicap, et tellement handicapée qu'elle n'avait plus l'usage de ses mains. Il y avait juste sa tête et sa bouche qui pouvaient encore nous donner des informations. Donc bah, pendant des années, c'est mon grand-père ou des aides-soignantes qui ont fait sa douche, avec un gant de toilette, avec le pommeau de douche, avec tout ce que tu veux. Tu as certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées.
Qu'est-ce qui se passerait si, imaginons, demain, vous retrouvez l'usage de, vous retrouvez l'usage de votre corps, de vos membres, enfin de ce que...
C'est une très bonne question que tu me poses là. Et je t'avoue, je ne me la suis jamais posée. Bah, je pense que je ferai tout ce que je peux plus faire. C'est-à-dire que monter une montagne pour aller voir le paysage, par exemple, bah, c'est un truc que je peux plus trop faire. Enfin, je peux le faire, mais différemment, et ça va être très compliqué. Y a certaines choses, en fait, avec le fauteuil, qui ne sont pas accessibles. Même si on peut les adapter, même s'il existe plein de matériel qui permet d'adapter, bah, y a des choses que je fais plus. Et honnêtement, aujourd'hui, je m'en rends plus compte. Des fois, c'est mon conjoint qui dit « Ah bah tiens, j'irais bien faire ça ». Et je voudrais t'emmener avec moi. Et le premier réflexe, c'est de se dire « Oh là là, comment on va faire ?» Parce que c'est pas accessible. Donc, dans ces cas-là, il y a deux options. Soit on peut y arriver tous les deux en adaptant un petit peu et on s'en sort. Soit on se dit « Bon bah, écoute, on va chercher du matériel » ou on va demander à d'autres personnes de nous accompagner pour réussir à le faire. Donc, je pense que si je retrouvais l'usage de mes jambes, il y a moins de questions que je me poserais sur ces problématiques-là. C'est-à-dire que si je vois que le chemin il n'est pas accessible du tout, et bah, je me dirais, bah, je me lève et puis je peux faire 3-4 pas, m'asseoir peut-être au bout, on sait pas. Mais en tout cas, je le ferai différemment.
Est-ce que, par exemple, vous pouvez prendre des transports en commun, comme par exemple le train ou encore l'avion ?
Oui, je peux prendre le train, comme toi tu prends le train. Je peux prendre l'avion, pareil. La seule chose, c'est qu'il faut réserver ce qui s'appelle une assistance. C'est-à-dire qu'il faut que j'appelle au téléphone en expliquant, bah voilà, je prends le train tel jour à telle heure, pour aller de tel endroit à tel endroit. Par exemple, moi, tous les mois, je vais voir ma famille qui habite à Chartres, donc à 200 km d'ici. Donc je prends le train d'Angers, direction Chartres. Pour faire ça, il faut que je demande une assistance au départ, à l'arrivée, mais aussi entre les deux. Parce qu'entre les deux, je passe au Mans. Et donc, l'assistance, ils sont là pour mettre une rampe qui va me permettre d'accéder au train. Voilà. Et l'avion, c'est pareil, en fait, tu leur expliques et pareil, ils te mettent à disposition le matériel. Sauf que l'avion, tu voyages pas forcément dans ton fauteuil.
Est-ce que c'est possible que vous retrouverez vos membres ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calmer la maladie qui s'attaque à mon corps, et c'est ce qu'on fait. Par contre, l'usage de ma moelle épinière qui a été coupée à cause de l'accident, bah ça, pour l'instant, on sait pas faire. Mais il y a des études qui sont en cours, et qui font que peut-être dans quelques années, bon, on arrivera à remettre en fonction la moelle épinière pour que je puisse récupérer l'usage de mes jambes.
Mais du coup, est-ce que vous avez une voiture ?
Alors, pas encore. Ça va arriver dans quelques mois, j'espère. Pourquoi j'ai pas de voiture ? Déjà parce que pour passer mon permis de conduire, il faut l'adapter. C'est-à-dire que je vais pas conduire la voiture avec les pédales. Je vais la conduire avec mes mains. C'est-à-dire que les pédales, on va les mettre sur le volant. Donc pour ça, il faut adapter le véhicule. Ça coûte un petit peu cher. Et c'est surtout que pour pouvoir passer mon permis de conduire, il faut que mon état de santé le permette. C'est-à-dire que si je risque de m'endormir à chaque fois que je prends le volant, bah, il ne faut pas le faire. Mais ça va arriver dans les prochains mois. Je suis en train de mettre en place le permis de conduire pour pouvoir gagner encore plus d'autonomie.
Comment ça se passe parce que les trajets, parce que vous avez dit que vous pouviez faire des trajets en voiture, mais quand c'est pas vous qui conduisez, comment ça se passe ?
Eh bah, alors là, tu me vois avec mon fauteuil électrique. Il faut savoir que j'ai aussi un fauteuil manuel qui nous permet de le plier très facilement. Et donc, bah, quand c'est mes proches qui m'emmènent, Je me transfère de mon fauteuil au siège de la voiture. On plie le fauteuil, on le met dans le coffre. Et zou ! On part à l'aventure.
Est-ce que vous pouvez payer une nouvelle molépimière ? Je sais pas comment ça se prononce.
Alors là, en l'occurrence, je vais pas pouvoir la payer. Parce que c'est pas comme un organe qu'on peut greffer, qu'on prend sur une autre personne et qu'on peut le mettre sur mon corps. Mais peut-être qu'un jour, il y aura, je sais pas, une petite puce, une chirurgie, une opération qui permettra de faire ça. Et peut-être qu'effectivement, il y aura quelque chose à payer. Mais là, aujourd'hui, je le sais pas.
Est-ce que, enfin, c'est quoi votre réaction quand il y a des gens qui sont garés sur les places handicapées ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vite énervés.
Alors, je vais pas te dire que je m'énerve pas. Il y a des fois où, bon, bah voilà, ça m'énerve, mais je le dis pas. Et il y a des fois où, bah, si la personne est dans le coin, je vais lui faire remarquer et puis elle va très vite partir de la place parce que sinon je vais appeler la fourrière et la police pour que la voiture s'en aille. Parce que quand c'est comme ça, il y a des amendes. Et en général, bah malheureusement, on n'a pas le choix que de subir parce que ben suffit que ce soit un parking privé, bah tu trouves une place ailleurs et puis ben voilà. Mais effectivement, je suis. Disons qu'au fil des années, j'ai appris à le gérer, mais ça m'agace.
Est-ce que ça pourrait marcher d'avoir des trucs robotiques à la place de la jambe? À la place du coup.
Des exosquelettes. Effectivement. Alors, je pourrais. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des essais avec une entreprise française qui existe qui me permettrait de marcher. On m'a proposé de les faire, ces essais-là. Je les ai refusés. Parce que je pars du principe qu'une marche robotique, c'est pas ma marche à moi. Et en fait, moi, je vais pas ressentir les sensations du sol qui est sous mes pieds, de tout ce que ça m'apporte. Donc oui, je pourrais. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu envie de le faire pour l'instant.
Vous trouvez quelle vie plus simple entre celle d'avant où vous aviez vos pieds et celle de maintenant où vous avez votre fauteuil ?
Honnêtement, c'est la même vie. Juste, j'adapte. C'est-à-dire que je m'empêche pas de vivre les choses parce que le fauteuil est là. Je vais aller les vivre et puis s'il faut l'adapter, on l'adapte. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de regrets sur ma vie, qu'on peut dire ma vie d'avant. C'est-à-dire que je me dis pas, ah bah mince, voilà, j'ai plus mes jambes, je peux plus vivre. Je suis obligée de rester allongée, des choses comme ça. Non, je vais vivre, je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aller en week-end à cet endroit-là, bah j'y vais. J'ai envie d'aller voir une exposition, j'y vais. J'ai envie de faire plein de trucs, je le fais. Et je me pose pas la question. Au contraire, ça m'a plutôt envie de me dire, donner envie de me dire, ben, en fait, une vie, t'en as qu'une. Et si tu fais pas les choses maintenant quand t'en as envie, bah peut-être que tu les feras jamais parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Donc je savoure beaucoup plus.
Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous ne pouviez plus... que vous aviez plus l'usage de vos membres ?
Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour ma part, je l'ai pris, tu vois, comme je viens de le dire, comme une seconde chance. C'est-à-dire que j'ai toujours la chance d'être là et d'être vivante. Donc on y va. Mais pourquoi j'ai pris ça comme ça ? Parce que depuis petite... J'étais au contact de ma grand-mère qui était en situation de handicap. Je l'ai toujours connue en fauteuil, je l'ai toujours connue à se lever le matin, s'occuper de ses élèves parce qu'elle était monitrice d'auto-école et elle leur apprenait le code de la route. Donc il fallait se lever le matin, aller dans son fauteuil, s'occuper des gens. Et c'est pas le handicap ou la maladie qui allait l'arrêter. Et même jusqu'au dernier moment, elle venait dans la cuisine expliquer à mon grand-père « La recette de cuisine, il faut la faire comme ça !» Elle pouvait pas le faire, par contre elle pouvait guider. Et donc, malgré le handicap, malgré la maladie, bah en fait, tu te dis, bah, je suis toujours là. Donc, bah, allons-y. Hein.
Comment sortez-vous d'une voiture quand quelqu'un est mal garé ?
Eh bah, ben, on déplace la voiture. Ça m'est arrivé il y a quelques mois avec l'une de mes sœurs. On s'est garé, nous, on était bien garés. On part faire les courses, on revient, et là, je vois ma petite sœur qui explose de colère. Et qui me dit « Non, mais c'est pas possible, ils vont encore m'embêter pour que tu puisses monter dans la voiture. » Puis moi, j'avais pas vu ce qui se passait. Et effectivement, on avait une voiture qui s'était collée à ma portière passager. Donc moi, je ne pouvais plus monter dans la voiture. Heureusement, Léa, elle pouvait monter dans la voiture, reculer la voiture pour que je puisse monter. Mais effectivement, j'aurais été toute seule. Et ça aurait été moi qui conduisais. Et ben, j'aurais rien pu faire, mis à part demander de l'aide à quelqu'un.
Comme quoi, malgré tout, les gens mal carrés... C'est tout un problème.
Exact, Alix.
Comment montez-vous les escaliers chez vous quand,
Alors ça m'arrive, tu fais très bien de poser la question puisque ça m'arrive. Puisque la maison de mes parents, autant ma maman que mon papa ou mes grands-parents, puisque j'étais chez mes grands-parents ce week-end, ont des escaliers. Et donc comment je fais? En fait, mon fauteuil, je le mets en bas de l'escalier, je me transfère et après je monte l'escalier avec mes bras. C'est-à-dire que j'arrive à me soulever d'une marche à une marche à une marche et en fait je soulève mes jambes avec mes mains. Et donc je monte l'escalier comme ça. Et une fois arrivé en haut ou en bas de l'escalier d'ailleurs, bah je retrouve soit mon fauteuil, soit un autre fauteuil.
Mais chez vous, vous avez quoi si vous n'avez pas de marche, vous avez des rampes?
Alors moi j'ai la chance d'habiter dans un appartement qui est complètement de plein pied, c'est-à-dire que tout est à plat. Et pour accéder à l'immeuble, bah devant l'immeuble, alors je suis au rez-de-chaussée, mais c'est un rez-de-chaussée qui est un petit peu surélevé. Donc devant l'immeuble, j'ai un ascenseur qui fait le demi-étage. Et derrière l'immeuble, eh ben, j'ai une rampe. Donc, ce qui me permet ou d'accéder par l'ascenseur ou d'accéder par la rampe. Et souvent, je prends la rampe.
Mais il existe des fauteuils pour les escaliers? Enfin, des... Je sais pas comment.
Il existe des montes-escaliers, c'est ça que tu veux dire. Une chaise qui monte l'escalier.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Oui, ça existe. Ça coûte cher. Donc, on ne le met pas forcément partout parce que, tu vois, c'est pas mon lieu de vie. Quand je vais chez mes parents, quand je vais chez mes grands-parents, bah, j'habite pas là-bas tous les jours. J'habiterai là-bas tous les jours, oui, j'installerai quelque chose. Mais je ne le fais pas. Et il existe des fauteuils roulants maintenant qui montent les escaliers. C'est-à-dire qu'à la place des roues, ils ont des chenilles qui montent l'escalier. Ça coûte très cher et ce n'est pas pris en charge en France pour l'instant. Mais ça arrive. Est-ce que vous êtes content de cet échange qu'on a eu entre nous?
Je suis assez content de vous avoir parlé parce que ça nous a apporté plein de précisions sur le handicap. Précision qu'on savait ou qu'on savait peut-être pas, et du coup ça nous a beaucoup aidé, je pense.
Moi j'étais content, comme ça j'ai pu en savoir plus sur le handicap et comment ça se passait dans les journées pour un handicapé, et qu'en fait on n'était pas si différent que ça.
Je suis content parce que ça m'a appris des choses.
Je suis content parce que j'ai appris une vie d'handicapé, au final on se ressemble quand même un petit peu parce que on a la même vie, juste que les handicapés, c'est un petit peu plus difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas tout. Des fois, il n'y a pas d'ascenseur dans les immeubles ou quoi.
Moi aussi, je suis contente parce que on a aussi appris, on a appris le quotidien d'une personne handicapée et qu'on a plus de ressemblances que de différences.
Oui, car ça m'a permis de voir le quotidien d'une personne handicapée et de le connaître. Là, je vais parler pour moi. Moi, personnellement, ça m'a plu, c'était sympa. Il y a eu des échanges et c'était bien.
Oui, je suis même très ravie de connaître maintenant la vie d'un handicapé. Ça me permettra d'en savoir plus.
Encore une fois pour mon collègue. Maintenant, il voit ça d'un autre point de vue.
Thank you.
la marine du montage. Les enfants, j'ai un message pour vous. Un immense merci. Vous pouvez être super fiers de vous. Vos réponses sont d'une très grande maturité. J'espère de tout mon cœur que vous continuerez à grandir avec ce bel état d'esprit et cette envie d'aller vers les autres, quelles que soient leurs différences. J'espère que vous êtes fiers de vous. En tout cas, toute la team Rayon d'Action l'est, et moi la première. C'est une très belle émission que nous avons là grâce à vous. Merci encore, et à bientôt. Une dernière petite information pour vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez. Au fil de l'émission, les enfants parlent régulièrement des handicapés. Nous avons volontairement fait le choix de les laisser s'exprimer librement et de les laisser utiliser leurs mots. Néanmoins, après l'émission, nous leur avons transmis l'information suivante. La question du vocabulaire autour du handicap est importante. Elle évolue avec les sensibilités sociales et les années. En France, le terme handicapé est encore utilisé dans le langage courant et dans certains textes officiels, même s'il est considéré comme réducteur, car il met l'accent sur la déficience plutôt que sur la personne. Beaucoup préfèrent des formulations comme « personne en situation de handicap » ou « personne handicapée », en plaçant l'humain avant le handicap. Même si cela fait débat auprès de nombreuses personnes handicapées qui préfèrent que l'on dise qu'elles sont handicapées. C'est une question de point de vue et de ressenti, dirons-nous. Le langage influence la perception. Parler de personne avant le handicap permet de reconnaître d'abord la personne, puis sa situation. Mais dans la bouche des enfants, vous l'avez sûrement compris, il n'était pas péjoratif du tout. Oui, on peut encore utiliser le terme handicapé, mais il est préférable d'opter pour des formulations plus inclusives, comme personne en situation de handicap. Et de faire attention. Alors, n'hésitez pas à poser la question aux personnes concernées. Elles vous en diront plus, et surtout ce qu'elles préfèrent.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous étiez sur Radio Campus 103 FM. C'était Rayon d'Action, une émission proposée par la délégation APF France Handicap du Maine-et-Loire. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Un merci tout particulier en régie à Étienne, mais aussi à Jade, notre service civique, qui a été à mes côtés. Bienvenue dans l'aventure. Merci à l'ensemble des élèves que nous avons accueillis aujourd'hui avec nous, à l'équipe enseignante et au collège Saint-Lô des Poncés pour leur accueil. Nous vous retrouvons le mois prochain pour une autre émission hors les murs, cette fois-ci au Nid du Héron. À bientôt !